Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
News, podcast de soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite soccer.
Bonsoir à tous, lundi 17 octobre, vous êtes en compagnie du Cannes Football Club avec moi ce soir, Reginald et Sid. Comment ça va les gars?
Ça va bien et toi?
Alors, écoute, c'est un lundi comme on les aime, une qualification pour les demi-finales de la MLS Cup. Merci à tous ceux qui sont déjà en direct, vous êtes énormément et voilà, Sid l'a dit tout à l'heure, Olivier, Alex, Marco, Mathieu, Glad, voilà, vous êtes des habitués, donc c'est très très cool de vous recevoir ce soir. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, c'est le CF Montréal qui s'est qualifié hier soir en battant Orlando. Pas l'ennemi juré comme Toronto, mais on sentait que, on va en parler un petit peu dans les ressentis, qu'il y avait quand même une certaine animosité entre le CF Montréal et Orlando qui commence à naître depuis peut-être la saison passée. Donc, on est tous heureux ce soir. Et puis, voilà, l'aventure continue. Rendez-vous dimanche prochain, le 23 octobre à 13h au Stade Saputo pour affronter soit le New York City FC, soit l'Inter Miami qui sont en train de croiser le fer là, les deux en ce moment. À la 23e minute, il y avait encore 0-0. On vous dira l'évolution du score durant le podcast. Les gars,
le fil rouge de la soirée. Ouais, j'adore. Excellent.
Les gars, comme on fait d'habitude, on va tranquillement dérouler le fil de l'émission. Le ressenti de chacun. Hey, sauf le voici, le voilà. Il est là, toujours. Donc, on va dérouler le fil de l'émission, les ressentis de chacun, bien entendu. Le fait du match, l'ambiance, tout ce que vous avez un petit peu ressenti lors de cet événement. Moi aussi, je prendrai la parole parce que j'avais la chance d'être au stade et ça doit être différent vraiment. À la télé et au stade, donc ça va être super cool d'avoir les avis de tout le monde. Reg, comment?
Moi, moi j'étais pas, malheureusement, je pouvais pas être au stade, donc je l'ai regardé.
En même temps, c'était complet, donc j'avoue que si t'avais pas de place, c'est pas de ta faute.
J'aurais pu m'y prendre à l'avance. Oui, enfin bref, c'était pas, peu importe là, malheureusement c'était pas possible, mais j'étais bien tranquillement dans mon domicile, j'ai regardé le match et écoute, c'était plein, il y a une belle ambiance, c'était vraiment bien, on sentait...
Est-ce que tu le sentais à la télé ou pas? Parce que vraiment, là, dedans...
Oui. Tu sentais que tu étais dans un match de play-off, tu sentais le côté que c'est dimanche, c'est le soir, match à 20h, il y a une petite effervescence en plus. Et moi, ça me rappelait un peu le fameux match qu'ils avaient fait où Zachary a marqué le but, et c'était un match un vendredi, c'était à 20h aussi, donc il y avait un peu cette ambiance qu'il y avait. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais il y a un truc que j'ai trouvé, ouais. Et si je peux parler plus en sortir de l'ambiance et vraiment rentrer dans le match, je te dirais que j'ai senti cette équipe-là, comment je pourrais dire, elle manquait un peu de vis en début de match, tu vois. Moi, j'ai senti un Orlando, justement, qui techniquement n'était pas meilleur, qui était clairement la moins bonne équipe des deux, mais tu sentais une équipe qui... Elle pouvait gagner ce match-là si CF, en fait, et il y avait un petit côté vice, je trouvais qu'il manquait dans cette équipe de CF, puis au final, ils ont tourné le match, mais voilà.
Je rebondis juste ce que tu viens de dire, parce que j'avais la chance d'assister donc aux conférences de presse de Wilfried et des joueurs, et puis C'était les questions qui ont été posées justement parce qu'on savait qu'Orlando allait jouer effectivement un petit peu truqué, un petit peu de triche, un petit peu de. Et puis en fait, au final,
Ah oui, la triche.
toi, ils te sont apparus un petit peu fébriles. Pour autant, cette équipe, en fait, avait travaillé ça vraiment toute la semaine. Et Wilfried Nancy nous disait qu'ils avaient travaillé à 11 contre 10. Donc quand Montréal est en supériorité numérique, ils ont travaillé à 10 contre 11. Donc si Montréal devait être en infériorité numérique parce que quelqu'un aurait pété un plomb. Ils ont travaillé aussi quand ils perdaient 1-0, ils ont travaillé quand ils gagnaient 1-0. En fait, j'ai eu la même sensation que toi sur la première mi-temps en me disant,
Ah, c'est dingue.
ah, c'est relou, il y a quelqu'un qui va. Et puis
Ouais,
au final.
quelqu'un va péter un fusil ou
Ouais,
quelqu'un va, il va avoir un truc, tu le
mais en fait,
sentais,
au
hein.
final, Wilfried était très, très serein de chaque situation qui allait arriver dans le match. Et ça montre une nouvelle fois, on va pas à chaque fois revenir, mais ça montre comment ce club se professionnalise et il n'y a pas de détail qui est laissé au hasard. Et c'est ça qu'il a voulu nous faire transparaître durant toute la conférence de presse. Il est apparu vraiment très serein. Et puis, moi, je regardais un petit peu. Il y a eu des duels dans le match. Il y a eu Johnstone avec Murillo. Ça s'est frité un peu. Il y a eu Kai Camara avec le défenseur central. Je ne sais plus son nom. Ça,
L'Argentin, là.
ouais, ça s'est frité aussi à de nombreuses
Schlegel.
reprises. Voilà, exactement. Ça s'est frité à de nombreuses reprises. Donc, il y avait Camacho avec Cara qui est un bébé énorme, mais ça s'est aussi un petit peu joué des coudes. Donc il y avait plusieurs moments dans le match effectivement où ça aurait pu dégénérer, mais quand on a le ressenti du coach après le match, on comprend pourquoi ça n'a pas dégénéré et pourquoi Montréal est finalement resté focus sur tout le match. Mais c'est intéressant que tu l'aies relevé parce que c'est aussi les premières questions qui ont été posées à Wilfried lors de la conférence de presse en se disant. Et il y avait de la tension aussi dans les tribunes parce que Gaillézé a bien chauffé le public en prenant à peu près 4 minutes 30 sur chaque 6 mètres. Donc on sentait effectivement beaucoup, beaucoup de
Ah, c'est un bon point,
crispation.
ce qu'il
Tu
dit
vois?
Benoît. Il a raison. Hein.
Je pense que oui.
Je pense
Je
que
pense que
c'est il a raison. Benoît, c'est limite peut-être le seul.
oui.
Non mais c'est vrai qu'il aurait peut-être eu de la difficulté à garder ses nerfs. Non mais c'est vrai. Déjà en plus, on se rappelle qu'au deuxième match de la saison, il a pris rouge à Orlando
Oui, c'est
sur
ça.
une
Bah,
action où il y avait un petit voilà, il a fait un Hadouken dans le chest du gars et tu sentais que il était bon. Après, on a retrouvé un MVP Kyoto moins nerveux au fur et à mesure de la saison, mais c'est vrai que tu te dis
malgré tout, effectivement, c'est peut-être la seule personne, peut-être sur qui même
potentiellement,
Nancy a
voilà.
moins d'emprise que les autres. Merci beaucoup, Reggio. Aussi, j'aimerais te passer la parole parce que tu étais au stade aussi et pour la
Moi, ce
retranscription.
sera pas sur le match, donc
Oui,
continue
c'est pour ça.
sur le ressenti. Mais non, vas-y, t'enchaînes. C'est bien quand t'as vu le match, t'as l'air plus vivant et tout, donc
Non, moi,
continue sur ta
je...
lancée.
Non, c'est vrai que
Il est
c'est vrai que.
8h18, là. Waouh.
Non, c'est
Déjà.
vrai, je vous le dis,
Arrête.
on l'a
Il
plusieurs
voulait
fois dit.
rebondir sur le point de Redge, il a fait deux fois plus long que Redge, donc ça se sent quand même
Parce que.
qu'il est en
Ouais, parce
galerie de
que c'est.
presse et tout. Vas-y, continue,
Ben oui, c'est ça qui est.
lâche-toi,
En
c'est
fait, on
bon
a
ça.
les informations et ça, c'est
Moi, j'ai
cool.
parlé pendant 4 heures dimanche, ça va, ça suffit. Les gens, ils en ont marre de
Non,
m'entendre.
mais. Je voulais dire, c'est vrai que Reg l'a aussi dit à de multiples reprises à bon escient, Montréal est peut-être une ville de sport quand ça gagne, mais ce que j'ai vu
Bah
moi
oui.
hier, non, mais ce que j'ai vu moi hier des 19 000 personnes, je ne sais pas s'il y a 19 000 connaisseurs de foot ou aficionados ou comme on veut les appeler, mais ça donne quand même une lueur d'espoir sur le fait qu'il y a moyen de mobiliser au travers de ce club-là. Et puis, pour revenir sur le match, j'étais exactement comme toi. Reg, je me disais qu'en fait, si on marquait pas ce premier but, ben Orlando était toujours dans son, tu sais, dans son fil directeur, où eux, ils sont carrément pas venus pour jouer. C'est-à-dire que à
Pas
chaque
d'accord.
fois
On
que,
parlera du match après, je suis pas d'accord.
ah non, ils sont pas venus pour jouer. Ils sont venus pour
Ok,
juste faire des
bah
jeux.
ok.
Non, ils sont venus faire un jeu direct pour. C'est-à-dire que ils ont bien analysé le CF Montréal, je pense, et ils ont joué exactement pour essayer de gêner le CF Montréal. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu joues un jeu direct, il faut quand même que tu sois au deuxième ballon, il faut quand même que techniquement tu sois un petit peu juste, ce qui n'était pas du tout Orlando hier. À moins que tu aies vu autre chose, dis-moi.
Non, bah, regarde, tu veux que je parle du match là? Non, attends.
Ouais.
Moi, c'est un peu par rapport à l'ambiance. C'est comme Reg, là, j'étais à la télé, c'était bien. C'était
J'ai
bien.
pas dit que c'était bien à la télé.
Mais Je vous assure, bien, je vous assure que dans le stade, c'est un moment à vivre.
C'est ce qu'il a dit, Raj, plus whatever Raj said, puis j'ajoute, c'était bien. C'était cool. C'est tout le temps... Les matchs en soirée sont tout le temps plus beaux à la télé. Sabuto est bien illuminé, la pelouse est belle, la télé, ça se voyait très bien, puis c'était joli, puis... ça fait très t'es Ligue des Champions du mercredi là, mais cette fois on est dans le même fuseau horaire que le match qui joue ce soir, donc ça fait un peu magique là. Donc c'était le fun, la foule était chaude, très chaude, dans le son, puis dans les visuels qui montraient, puis c'était bien. Moi c'était, je trouve ça agréable à regarder le match là, c'était cool. J'étais tendu, genre, j'étais un peu tendu, donc c'est bien, j'étais acteur.
Mais c'est ça qui est fou. Est-ce que tu étais tendu? Et ça, j'aimerais aussi que sur le feed, vous puissiez réagir avec, je sais pas, un sentiment ou votre feeling avant et après le match, juste pour qu'on sache un petit peu dans quel état vous étiez. Mais toi, Sof, tu as dit que tu étais tendu. Est-ce que tu étais tendu parce que tu te dis, est-ce que les gars vont assumer l'événement? Ou parce que tu savais que Orlando pouvait vraiment nous faire chier, entre guillemets, passez-moi les
Ouais, ouais. Comment ils ont commencé Orlando? Genre, ah, ok, ils ont compris. Et je ne m'attendais pas qu'il y ait trois contre. Excellent, premier mi-temps. Je m'attendais à un contre et demi. Ils ont eu un contre. Un contre et deux ballons sur lesquels Montréal jouait tellement haut. Peut-être un. La chance de l'attaquant autrichien, où c'était vraiment genre tout le monde jouait haut, puis ils s'en fait avoir. C'est un peu le risque de jouer haut et l'autre équipe qui joue bas. C'est ça m'a un peu genre, ouf, je pensais pas que ça allait venir aussi vite que ça. Puis Morel avait des demi-mises occasions. Il dérangeait un peu Orlando, mais pas assez pour dire, ok, quoi qu'il avait une chance là, que notre ami pardon, Antonio Carlos avait sauvé. Je pense que c'était l'appel à la nana qui était pas loin d'aller chercher un ballon. C'est ça, c'était un peu tendu. Puis le tendu, le fait que genre, ben, c'est les playoffs, c'est les séries. Il y a aucun drame, à moins de VAR catastrophique, arbitre dégueulasse, une mauvaise performance de Montréal de façon générale, collective, individuelle. Il n'y a rien qui empêche que Montréal gagne, que perde. Là. Il n'y a pas de drame dans son genre. À moins de circonstances atténuantes, dans ce format-là, Orlando avait un peu d'expérience. Ils disent, ouais, ça se peut. Puis après la première mi-temps, si on me dit que c'est 2-1 ou 3-1 Orlando, je dis ouais, c'est logique là par rapport à ce que je vois en termes d'occasion. Pas en termes de jeu, etc., mais en termes d'occasion, ça peut être 2-1 Orlando sans qu'il y ait de drame là. Je suis conscient que s'ils marquent un but, ça peut être qu'ils ont les autres occasions. Donc je prends les occasions en termes de valeur absolue là. 2-1-3 Orlando, ça n'aurait pas été fou.
Mais juste
qu'il n'y a aucune frappe cadrée, hein, tu sais,
c'est
ça.
C'est ça que
j'allais te dire. Tu sais ça, hein, ou pas?
Pour Orlando.
Ah, oui, c'est
qu'Orlando
n'a aucune frappe cadrée.
Ouais, mais ça change pas ce que je dis.
Non, mais Montréal, Reg, a deux frappes cadrées, c'est les deux buts. Première frappe cadrée, 70e minute. Deuxième frappe cadrée, le pénalty.
Mais avant,
on va alors des débats, sauf.
Mais c'était bien, l'ambiance c'était bonne. Je n'ai pas nécessairement trouvé Montréal trop soft, là. Ouais, un peu. Peut-être. Mais ils jouaient leur jeu. C'était la continuité de tout ça, puis... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu nécessairement une augmentation, du moins de la télé, une augmentation d'intensité ou de... J'ai l'impression que c'était là un rythme d'où... assez similaire que les derniers matchs où ça jouait intensément, parce que tout le monde voulait se qualifier. Mais maintenant, je n'étais pas dans ça, la fête publique, ou peut-être Wanyama court plus vite sur le terrain, ça se voit, ou Koné est porté un peu plus. Je ne suis pas au stade, donc c'est différent. Mais ce qui est bien, c'est que genre, ce qui est arrivé au match... est arrivé, puis je trouve que c'est l'ambiance qui a peut-être ajouté un peu plus pour ça.
Oui et non, sauf parce que je peux te le dire, c'est moi j'ai trouvé ce match assez intense, vraiment, et j'ai trouvé pour le coup toutes les courses, que ce soit Wanyama comme tu dis, que ce soit Koné quand il se projette, que ce soit Lassie, toutes
c'est possible,
les courses
ouais.
De tous les joueurs, il y avait vraiment et cette concentration pendant les 90 minutes, parce que même après le penalty, Waterman, c'est Arang, Mihailovic, etc., en leur disant, hey, il reste une minute, je veux vraiment pas qu'on flanche là-dessus. Tu sais, il y avait quelque chose en plus effectivement hier. Mais c'est vrai que je note aussi ce que dit Benoît. On était à une boulette de la catastrophe, voire même Normand qui dit il a jamais été aussi stressé lors d'un match dominé par l'Impact. Effectivement, il y avait ce sentiment de domination Mais
ouais, mais moi, je trouve quand même que les chances, j'ai hâte de voir si Sid pourra nous les montrer ou pas tout à l'heure, les expected goals, à mon avis, le
expected goals d'Orlando... Ah, mais je pense qu'on est à 0,25.
Non, mais celui d'Orlando, il est beaucoup plus élevé. Entre l'occasion de...
Ah, tu penses, toi?
Ah bah ouais, entre l'occasion d'Antonio et le face-à-face de Daka... Sérieux, Daka,
Cara,
je me trompe avec le gars de Leicester, il cadre même pas et tu te dis non. Moi, je trouve honnêtement, leurs occasions sont beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, c'est clair, il est devant les cages là. Bon, bah, à voir comment on met. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'au final, ils ont que deux frappes cadrées, le péno et le but de Koné.
Ouais.
Et puis là, eux, c'est ces deux occasions-là d'Orlando que je trouve, mais ils sont dans la surface, mais c'est... Franchement, c'est des vraies occasions, genre.
J'entends ce que tu dis, mais je me rappelle aussi de quelques actes. En fait, comme disait Sof, des fois, Montréal a des demi-actions, mais c'est quand même... Tu sais, quand la Palainel, il est
vraiment... Oui, la tête qui ne met pas. Mais pour moi, je considère qu'on a des occasions assez dangereuses. Maintenant, si ce n'est pas un tir cadré ou même un tir tenté, je dis...
Ah, c'est vrai, quand
Johnson fait 300, à chaque fois, ça fait paniquer Orlando. Pour moi, c'est quasiment une occasion. Parce que ça fait stresser une occasion pour Sofiane, pas la définition d'occasion.
Faudrait que tu nous donnes ton, tes stats.
Pour l'audience.
Il a son lexique. C'est son football et son lexique.
S'il nous apporte l'autre. Et puis, ensuite, on a Sofiane.
Je peux seulement vivre mon football. Je peux pas le vivre celui de quelqu'un d'autre. C'est moi qui le fais. Mais l'ambiance, c'est vrai. Et peut-être que je pense sûr que c'était au stade. Peut-être j'aurais vu une intensité, l'ambiance, ça pousse, les fuck you ref, you suck ref, ça redonnait quelque chose de différent. Si on était dans le stade, je l'entendais, puis ça aurait peut-être motivé les joueurs. C'était là que la cloche, elle a pas sonné là, au début, mais peut-être entendre les coachs se gueuler dessus sur téléphone, c'est voir. Je pense que les joueurs doivent recevoir une énergie nerveuse ou pas, là, dépendant des occasions. Quand, je sais pas moi, quand un clash entre les joueurs et le public scande à 19 000 personnes, puis ça fait vibrer le Stade Saputo. Je suis pas sûr que l'ambiance a dû faire beaucoup avec ça. Puis c'est moi l'ambiance j'ai kiffé en tout cas. J'aurais bien voulu être là. Inch'Allah, je suis là dimanche prochain, mais je sais pas encore. Mais
en tout cas, faut aller vite, parce que ça part.
Ça de rough. Faut trouver, faut acheter.
on va terminer ces ressentis par Sid, puisque Sid ne va pas parler du match, on l'a fait, et donne-nous un petit peu ton ressenti, j'imagine, sur l'ambiance, peut-être sur la journée d'ailleurs, puisque toi, tu arrives très tôt ou plus tôt que nous au stade.
Parle-nous de ta journée.
Raconte-nous un petit peu tout ça. oui, c'est intéressant.
Parle-nous de ta journée classique. Une journée type.
Non, c'était vraiment pas une journée type avec Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Marseille, Real contre Barça et Bayern contre Francfort.
Fribourg.
Fribourg ou Francfort? Non, Fribourg, t'as raison, Fribourg. Donc, comme c'est FR. Et je pense que j'ai vu un autre match.
Arsenal-Leeds.
À cause du manque d'électricité. C'est donc
t'as regardé Lyon-Rennes.
On est là, on t'as le programme, tout est attention, tu vois, c'est très tight.
Tout est carré.
Et il y a pas de pile. Qu'est-ce qu'ils ont à un moment donné voilà. Donc, effectivement, oui. Donc là, à la radio, ils ont décidé de faire un avant-match de 1h30. J'arrivais pas mal plus tôt qu'à l'habitude pour préparer ça. Donc, pour ceux qui l'ont écouté ou qui ont écouté peut-être en rediffusion, laissez-nous des commentaires, ce serait vraiment cool. Et donc, on a parlé avec Gabriel Gervais, Olivier Renard, ça c'est Georges qui lui a parlé, et on a parlé aussi avec Patrick Leduc. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Puis, il y avait des entrevues de Rudy Camacho et Alistair Johnston. Donc, durant cet avant-match-là, qui était sous la tribune, je pense, 124, et ça s'appelait ça la scène Budweiser. Et c'était fun parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient nous voir. Habituellement, quand on fait les avant-matchs, on est dans notre... on appelle ça une cabine, un boot. Et donc voilà. Donc bref, effectivement, Julien, je suis venu plus tôt que d'habitude, et encore plus tôt, parce que je suis passé faire un tour au tailgate des 1642, super ambiance. Et c'est vraiment cool. J'ai croisé Andy, et je savais qu'il allait nous faire un reportage dont il a le secret. Et je vais vous diffuser le reportage de Andy, pour que vous mettre un peu dans l'ambiance des tailgates, et ceux qui ratent ce rendez-vous, je vous invite à y passer. Donc donnez-moi deux petites secondes le temps. Tac. Est-ce que vous voyez tout ça?
Yes.
Parfait. Ok, on va essayer de mettre un peu de son.
Tout le stade
Et voilà, donc vraiment vraiment cool de plonger un peu dans le tailgate des 1642. Rendez-vous incontournable pour donc c'est dans ça le stationnement qui est en face du complexe, je pense Guy Charbonneau, c'est ça qui s'appelle, au pied du stade. Donc allez faire un tour à chaque fois, il y a toujours des informations. Puis désormais on est partenaires des 1642 pour l'organisation d'événements et on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc ok, et il y a une belle surprise de la part de notre de la Forge du Malte.
Et je vous dis,
elle a été populaire puisque 4 caisses sont passées durant, durant le tailgate. Et donc voilà, donc wow. la gang, allez faire un tour maintenant au tailgate parce qu'il y a la canne du KFC qui est disponible. Franchement, elle est malade. Franchement, c'est un truc de fou ce qu'a fait la Forge. On a travaillé fort pour être prêt pour les séries. Et je vous invite à aller faire un tour justement pour aller boire votre blonde 3.7 ou pour en boire plusieurs.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
D'un show pour le match. Donc, ouais, c'est ça. C'était un peu ça mon expérience, Jules. Puis, c'est sûr que l'ambiance a été très. Parmi les meilleures ambiances de l'année et puis sur les saisons précédentes, ça c'est une évidence. Je pense que heureusement que c'était le meilleur arbitre de la MLS parce que sinon ça aurait été compliqué, tellement tout le monde était extrêmement nerveux, ça sentait dans l'air, même dans la galerie de presse, je voyais certains tweets et des réactions. J'étais surpris à quel point il y avait de la nervosité et on avait peut-être peur de ce scénario catastrophe, se faire éliminer par Orlando. Mais après, le public a fait vraiment son travail et c'était assez le fun. Autre petite vidéo que vous avez sûrement dû voir circuler, mais que je suis obligé de vous partager, c'est le fameux la communion avec les supporters. Donc, donnez-moi deux petites secondes. Ça a été partagé sur le site de la MLS, et ce qui a fait dire à Andrew Wiebe, qui est un des journalistes de MLS Soccer, que le Sasa Puto, lorsqu'il est en anglais, il dit bumping, j'ai librement traduit par lorsque ça se bouscule au Sasa Saputo, c'est vraiment l'une des meilleures top ambiances de MLS. Donc ce sont ces mots, et vous voyez la vidéo qui lui a fait dire ça.
Ah ouais.
Donc voilà. Donc ce qui est vraiment, ouais, c'est ce qui est vraiment. Alors comme je pense que Julien, ça lui fait un peu le même effet. Ce qui est drôle dans les ambiances au Sasa Puto, c'est que c'est un espèce de medley de tous les chants de la Ligue 1. donc t'as un petit peu de Lens, un peu de Ventoux, un peu de PSG, un peu de Marseille. Puis ça fait drôle de les voir dans au sein d'un un club. Parce que généralement, dès qu'on vient à certains champs, tu te dis, mais ok, ça c'est la tribune Auteuil, mais ça c'est le virage chute, c'est pas normal. Que... c'est quand même très particulier, donc c'est comme d'avoir des champs que ça t'entends sur les stades de Ligue 1, mais c'est aussi la culture. Les premiers ultras, ils n'ont pas inventé tout. Ils ont pioché un petit peu à gauche, à droite. Puis ça donne ces particularités sur les... Donc vraiment, non, c'est cool. C'est vraiment cool de voir cette ambiance-là. Et c'était fou. C'était vraiment fou. Et pour le coup, habituellement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un match à telle intensité. Ça paraissait que l'équipe n'était pas en série depuis un petit moment et que le match contre New England il y a 2 ans, c'était pas au Sata Poto, donc on n'a pas pu voir, mais l'intensité était incroyable.
Mais tu sais, tu parlais aussi de l'intensité, de la concentration. Dans la compte d'après-match, on pose la question à Koné, est-ce que tu as vu, tout le monde avait des pancartes bleues à l'entrée des joueurs, donc tout le monde faisait comme ça faisait tout bleu. Puis Koné dit, j'ai pas vu. C'est pour te dire comment il était déjà dans un autre. C'est fou. C'était 19 000. Le stade était bleu. Et j'ai trouvé la réponse. Il a dit non, franchement, j'étais déjà focus et tout. J'entendais pas grand chose. Un gros bruit de fou qui a accompagné l'entrée des joueurs. Mais tu te dis, ah ouais, d'accord.
Le truc, c'est un mytho.
Hein?
C'est un mytho. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est ce côté un peu déjà dans le match, on l'a vu, puis malgré ce que j'ai dit, le côté un peu timoré, un peu le manque de vie, ce manque d'expérience aussi, même si je l'ai senti, tu voyais, ils étaient quand même prêts pour un match comme ça, ils avaient hâte de le jouer, et c'est une belle récompense, c'est la récompense de toute une saison de faire ce match devant les supporters comme ça, en fait. Puis c'est ça qui est beau, et de savoir qu'il y en a un deuxième qui arrive, c'est incroyable. C'est un gros travail qui a été fait toute l'année, même sur l'année dernière aussi, qui fait que la ville, le public, les supporters, ils sont récompensés avec deux matchs à domicile pour des playoffs. On a de la chance d'avoir une température qui n'est pas trop dégueulasse non plus, donc franchement... Non, c'est top, non, sérieux, c'est top.
Non, c'est sûr. Écoutez, c'est top. Bon, avant de terminer...
J'ai un scoop pour vous.
Eh oui, c'est le but de Rage qui revient. Eh oui, parce que vous n'avez pas l'habitude, Rage a été absent quelques fois, mais là, on a le but de Rage. Alors Rage, termine-nous cette séquence, s'il te plaît.
J'ai un scoop pour vous. Alors, c'est parti.
Tu as choisi lequel ?
J'ai choisi le penalty, voyons. Ça me paraît une évidence. J'ai choisi évidemment le magnifique but de Koné. Hop là, c'est bon, on voit mon écran.
Yeah.
C'est parti. Alors, donc Waterman qui récupère le ballon, le donne à Camara en pivot, une touche sur Mihajlovic, une touche sur Koné, contrôle du gauche, finish du gauche. Entre les jambes du gardien qui avait perdu beaucoup de temps. Donc, on était très contents qu'il se la prenne entre les jambes aussi. Grosse célébration, la foule en délire, au top. Laurent Duvernay qui a fait des trucs avec la cloche qu'on ne savait même pas qu'un être humain était capable de faire. Donc, on voit encore l'action. Camara en une touche, Mihajlovic en une touche. Et voilà, superbe action. Puis j'ai bien hâte de vous décortiquer ce but parce que je trouve qu'il y a pas mal de situations dans l'action du but. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir et que dans cette action-là, vous allez vraiment le voir, c'est forcément la technique et l'expérience de deux joueurs, donc qui sont Camara et Mihajlovic, qui sont les acteurs principaux de l'action. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ces deux joueurs-là, c'est que c'est eux qui dictent où, en fait, le ballon doit aller. C'est leur appel qui force l'action. Et puis ça, c'est vraiment la marque des grands joueurs, en fait. C'est pas « Ah, ben, il y a un ballon qui va là-bas, et puis après, ils réagissent. » C'est en fait leur mouvement qui crée... en fait l'action et qui force en fait le joueur à forcément jouer le ballon dans ce sens-là. Puis on va le voir donc dans les deux, dans la slide 2 et 3. Donc Waterman récupère le ballon de Camacho. Donc on peut voir ici qu'ils sont quand même très très hauts. Waterman qui fait partie des trois défenseurs centraux. Et puis là, il est quasiment quasi dans le dernier tiers du terrain, bien ancré dans la zone d'Orlando. Il va donner un ballon à Camara. Et Camara, en fait, là sur la slide que j'ai, il n'est pas en mouvement, mais c'est un mouvement de Camara vers le ballon qui donne en fait le signal à Waterman de lui donner le ballon. Puis c'est ça qui fait la différence. Donc c'est le mouvement de Camara qui force Waterman à lui donner. Et lorsque Waterman donne le ballon à Camara, avant même, et c'est ça que je trouve qui est fort dans l'action, et c'est là, c'est peut-être pour ça aussi hein, que Mihailovic ne sera plus avec le CF l'année prochaine. On sait que c'est un joueur d'exception et qu'il y a des qualités au-dessus de la moyenne. Avant même que Camara reçoive le ballon, Mihailovic est déjà en mouvement pour aller vers Camara. Et en fait, Moutinho, le défenseur, le latéral gauche, complètement statique, ne voit pas Mihailovic partir. Et quand Mihailovic part avant que Camara reçoive le ballon, ben Camara il reçoit ce signal qui doit forcément la donner en une touche de balle à Mihailovic, parce que Mihailovic est déjà en mouvement vers Camara. Donc là, encore une fois, une action provoquée par un mouvement. Donc c'est vraiment Mihailovic qui force Camara à lui donner en une touche, parce que si Camara ne lui donne pas en une touche, l'action elle est quasiment morte. C'est quasi une certitude. Puis là, même chose. Mihailovic, pareil, il reçoit le ballon et en une touche de balle, il la remet à Koné. Et c'est marrant parce que sur l'action, on voit il fait un peu une feinte de frappe avant de recevoir le ballon. Puis dans le même élan, il envoie le ballon dans l'espace pour Koné. Puis même chose, s'il prend une touche supplémentaire, ben on a Pereira qui a le temps de se retrouver vers lui. Il y a peut-être Schlegel qui, pareil, il peut sortir de son marquage. Puis elle est encore là, la diff, c'est vraiment de jouer juste et précis à des moments très importants. Puis c'est un des rares moments où le CF a justement accéléré dans ce match. Et en deux passes, en fait, ils ont mis complètement la défense d'Orlando échec et mat. Et là, il envoie donc ce ballon à Koné, qui se retrouve, Antonio, qui était Antonio Carlos qui devait surveiller Koné. Il y a quand même une sacrée distance entre les deux. Mihailovic qui se retrouve au sol après son contact avec Pereira qui était en retard. Et Piconé, à ce moment-là, contrôle orienté qui le dirige vers les cages. Puis c'est là que tu te dis, il est jeune, c'est un match de play-off, la pression elle est forte. Beaucoup, beaucoup de coups, beaucoup de duels. C'était un match qui n'était pas facile. Puis cette lucidité d'avoir vraiment ce contrôle orienté qu'il met dans une bonne condition pour ensuite finir propre du pied gauche, c'est vraiment top. Franchement, moi, je trouve que cette action, c'est vraiment une grande action de classe de A à Z. Puis j'aime beaucoup Antonio qui, comme vous avez vu là, est sur cette slide, est complètement statique. Pardon. Ici, ça fait un petit moment qu'il est statique. Puis à la fin, c'est vraiment lui qui ouvre les bras en mode « Les gars, vous déconnez ». Mais vraiment, ce que j'aime, puis dans cette action, il y a trois duels, si on veut. Tu as vraiment Mihailovic qui gagne son duel sur Moutinho, qui est beaucoup trop attentif sur cette action-là. Camara qui gagne son duel sur Schlegel. Et puis, Julien l'a dit au début, qu'ils sont frités vraiment pendant tout le match. Il gagne son duel, protège bien son ballon. Et puis, Koné qui gagne forcément son duel sur Antonio, qui lui aussi est beaucoup trop attentif, qui couvre vraiment qu'un espace. Mais après, Koné, il est en mouvement. Il n'a qu'un objectif, c'est d'aller vers les cages. Il reçoit un beau ballon de Mihailovic. Et puis, il arrive à crucifier le gardien. Puis vraiment, c'est waouh. Franchement, cette action-là, je trouve à la vitesse à laquelle elle se fait, la qualité avec laquelle elle se fait, c'est vraiment du très, très haut niveau. Très, très haut niveau.
T'étais obligé de zoomer sur lui, là. C'est nécessaire.
Ouais, écoute, c'est trop marrant. Moi, je trouve ça trop drôle, en fait, les gars. Quand il y a un but, il lève les bras. Tu vois, c'est un peu comme Piqué contre l'Inter. Il lève les bras alors qu'il est clairement responsable du but. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Et je trouve ça, j'adore. Donc,
ah, c'est cool.
Voilà.
T'es en mute,
Julien. Je sais que tu avais beaucoup à dire.
Ce que disait deux petites à ta démonstration qui est géniale. Mihailovic et Koné sont passés ensuite en conférence de presse. Et effectivement, quand tu dis qu'il fait une première feinte de frappe, c'est qu'il dit que la première chose qu'il voudrait faire, Mihailovic, c'est effectivement
frapper.
Mais sauf que il explique que bah, lui, il a toujours la tête levée quand il a le ballon et il voit tout de suite Koné, ce qui fait qu'il change. Et ça, c'était fort parce qu'il change de mindset tout de suite finalement. Puis Koné est venu ensuite après en disant, écoute, moi je savais qu'ils allaient me la mettre, sinon on allait se battre, parce que en gros il le travaille tellement. C'est, on le dit souvent qu'il n'y a pas trop de hasard dans le football, parce qu'en fait ça là, c'est exactement une phase de jeu qui est travaillée. Ah non,
mais
regarde, répétée.
Puis là il est déjà parti, Mihailovic, ah ouais. Là feinte, hop, puis en fait voilà. Il la met, mais dans le même geste.
Exactement.
C'est ça qui est dingue, c'est dans le même geste.
C'est ça, c'est Jérémy Filosa qui lui pose la question, effectivement, parce qu'on lui dit, on comprend pas comment tu, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il va pour tirer.
Ah non,
et,
mais c'est
tout de suite après il lâche sa cheville. Et finalement, juste pour rappeler aux gens qu'effectivement, les équipes travaillent vraiment la semaine. Et ça, c'est typiquement une action qui est travaillée de façon constante par les joueurs, avec notamment soit Camacho, soit Waterman, soit Miller, qui vont chercher la pointe. Puis le travail la liberté qui est laissée à Georgie finalement de se balader à droite, tantôt à droite, tantôt à gauche.
Sûr,
effectivement.
Mais après, quand tu es un joueur avec des facilités techniques, tu ne peux pas le confiner à une zone en fait.
C'est drôle ce que tu dis, parce qu'en deuxième mi-temps, Wilfried Nancy a quand même recentré beaucoup, beaucoup Mihailovic entre les lignes de Orlando City. Ce qui a fait que c'est là où il a pu beaucoup plus s'exprimer. Parce qu'en première mi-temps, très honnêtement, moi je l'ai trouvé, elle est pas fantomatique,
mais après, comme à l'image d'à peu près de toute l'équipe offensive, parce que tu sens vraiment que cette équipe qui a envie d'appliquer son petit jeu de passe tranquille, comme
c'est
là,
beau, ils ont envie d'être beaux, en fait.
Oui, ils ont envie d'être beaux, et en fait, on leur a pas dit, yo les gars, là t'es en playoff, là, il y a pas de beau, tu vois. Ah, Alix, il est sur le fil rouge,
ouais.
Alix est sur fil rouge.
Jean-François nous a donné le 1-0, puis Alix nous donne le 2-0 New York City. Donc probablement que on va bien entendu rencontrer New York City,
peut-être,
à mon avis.
Si tu as une vidéo de ce que tu racontais juste.
Ah oui.
Il nous dit qu'il arme sa frappe et à la dernière seconde, il t'aperçoit du coin de l'œil, puis finalement il change d'idée et il t'envoie le ballon. Est-ce que je présume que toi, tu meurs d'envie à ce moment-là, que tu dis non, donne-moi le ballon?
Moi, je suis sûr que Jody va m'en mettre. Dès que je suis parti, je suis sûr qu'il va m'en mettre. Parce qu'il ne m'en met pas, on ne va pas. Mais non, c'est ça la qualité de Jody. C'est un bon passeur, un bon créateur. Et pour nous, il est tellement utilisé dans nos deux années. On a à l'entraînement, on travaille souvent des exercices de Théo de Melrod. Et puis, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. On a joué Kai, Kai a remis à Jody. Moi, je suis parti dans l'espace. C'est des automatismes qu'on a créés entre nous. Et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui sur le terrain.
Merci beaucoup, Sid. Pour la.
Ah, c'est pour sérieux, il faut. C'est fou, comme je veux vraiment, vraiment mettre l'emphase là-dessus. C'est une action de haut niveau.
Ah oui,
c'est
oui.
Du haut niveau. Comme il faut vraiment que les Patreons comprennent ça. C'est. Tu sais, de vraiment jouer juste, propre, au bon moment. C'est surtout avec la pression. Il y a plein de trucs dans. C'est ça qui fait les différences. C'est jouer juste dans le dernier geste. Parce que souvent, tu peux bien construire quand tu es à l'extérieur de la surface, parce que tu as beaucoup plus de temps. Mais là, les remises en une touche, le fait que Camara, Georgie joue en une touche, connaît dans la surface, contrôle orienté, se met sur son pied, puis il finit, c'est propre, c'est top, c'est très, très haut niveau, vraiment. Là.
Non, c'est sûr. On va passer une petite page de pub et puis on va revenir pour les débats sur le ring, puisqu'en plus de ça, Red, j'avais lancé un petit ultimatum à Sofiane, donc on va voir ça rapidement.
Be ready.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette petite capsule vidéo de présentation de la Energy Soccer Box. Je me présente, Thierry, fondateur et créateur de la Energy Soccer Box. Et donc, je suis ici pour vous introduire en fait ceci. Donc, notre box, notre coffret que vous pouvez recevoir tous les mois et qui sera le mois prochain en partenariat avec le CANFC. Donc pour tous ceux qui sont amateurs du CANFC, soyez bien à l'écoute, vous aurez un code promo et vous recevrez donc cette boîte chez vous qui contient 6 à 8 surprises plus un plan d'entraînement si vous êtes pratiquant, mais sachez que tous les amateurs de ballon rond s'y retrouveront sans problème, etc. Il y a des surprises pour tout le monde. Maintenant, on va y aller. Je vais faire l'ouverture de la boîte pour que vous puissiez mieux voir qu'est-ce qu'elle contient. Cette boîte-là, c'était celle qu'on avait fait pour le lancement. Elle est différente de ce que vous recevrez le mois prochain. mais sachez que ça vous donnera une bonne idée, et puis sachez que celle du mois prochain, etc., aura aussi pas mal de bonnes surprises pour vous tous. Alors allons-y. Donc, quand vous allez recevoir en fait la boîte chez vous, vous allez avoir un message de bienvenue qui vous présente le contenu de la boîte et puis d'autres petites informations. Dans la boîte, vous aviez un chandail Lotto, marque emblématique pour tous ceux qui sont pratiquants de soccer, etc. Vous connaissez. Une pompe, un gel de massage bien apprécié, un serre-tête pour tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui ont des cheveux longs, etc. C'est bien pratique, c'est pas mon cas, mais ça sert à beaucoup de gens. Du sorbon pour les souliers, alors ça fait plaisir à beaucoup de monde à la maison. Et puis, un ballon également, ballon Lotto aussi. Et enfin, une barre énergétique, voilà. Sur le message de bienvenue, vous aviez également en fait un code qui vous amenait vers le programme gratuit si vous voulez effectivement vous entraîner. Ça, c'est selon votre désir, etc. Pour la suite, ça se passe sur le CanFC. Écoutez-les, le code promo est à venir. Merci beaucoup et à très vite. Ciao.
On remercie Thierry de Énergie Soccer. Je vous le rappelle, le code promo que je vais afficher tout de suite est disponible jusqu'à lundi 24 octobre minuit. Attendez, je retrouve juste le code promo et puis je vous le mets tout de suite. C'est CAN45. Voilà, donc vous allez vous rendre sur energysoccer.co. Vous entrez le CAN45 dans l'onglet entraînement, puis vous allez pouvoir avoir 45% de réduction. Essayez vraiment cette box. En plus de ça, la box que vous recevrez est la box CanFC que Thierry a concoctée pour nous. Donc vraiment, n'hésitez plus. Après, si vous voulez continuer ou pas, ce sera à vous de voir. Mais c'est vraiment très intéressant. Puis il y a aussi ce côté assez sympa de finalement ouvrir la box sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous l'avez vu, il y a des objets qui vont vous permettre de pratiquer votre sport préféré. Et en plus de ça, des séances, on l'a fait nous en événement pour ceux qui ont pu y participer. Et puis c'était assez intense. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est pour tout niveau. Vous pourrez même partager bientôt. Thierry va mettre en place des séances pour enfants. Donc vous pourrez même partager père, fils ou mère, fille ou etc. Donc ça, vraiment, n'hésitez plus. Le code promo, bien sûr, je vous le répète, ne sera plus valable à partir du lundi 24 octobre minuit. Donc n'hésitez plus. Energysoccer.co, code promo CAN45. Ok, messieurs, qui dit duel dit ben oui, ben non.
Oui, bah non, mais oui, bah non.
Mais oui,
mais non.
Mais oui.
Bah non,
mais oui.
Bah non.
Et oui.
Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que de ce que j'entendais après le coup de sifflet final, beaucoup de gens dans les couloirs, même en conférence de presse, on se demandait Kyoto titulaire dimanche. Ben oui, ben non. Sauf.
L'hypothèse qu'il est bah mec ok bah non après bah non
ben oui
Reg
ben non.
Ah ok, alors je vais écouter Sid. Intéressant.
Si ton joueur par excellence il est apte à jouer, il joue, c'est tout.
Ah ouais, d'accord, ok. Pragmatisme, Didier Deschamps, pas de problème. Reg, est-ce que c'est le match de ce soir d'hier qui t'a fait dire non?
Tu parles à moi là?
Oui,
Reg. Ouais. T'as dit pas oui, un peu, et je me dis que il n'est pas rentré. Il n'y a aucun moment où il est rentré. Je veux dire, s'il est comme il va être fit.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Au point de commencer dimanche, il serait rentré hier pour peut-être quelques minutes. Donc moi, j'ai du mal à croire qu'il soit fit pour commencer. Donc il sera fit pour être sur le banc et il pourra apporter en cours de match. Donc il ne sera pas titulaire, à mon avis. Non.
Toi aussi, ça, c'est juste sur le fait, c'est comme Red, c'est le fait qu'il ne soit pas rentré peut-être à la place de Mason Toy quand Kamara est sorti, qui te fait dire que bah, ça peut... Ça, enfin, c'est ça ?
Ouais, c'est une hypothèse. Genre, s'il ne rentre pas pour 5 minutes, je doute fort qu'il sera prêt pour titulaire.
Il y a une semaine entre les deux matchs. Hein.
Mm. Ok.
Non, puis il y a un autre truc aussi.
Vas-y, vas-y, Red.
Non, non, mais excuse, j'avais pas fini. Mais c'est juste, il y a aussi le côté où je ne suis pas contre ce milieu de terrain étoffé. C'est surtout ça aussi, c'est que là pour l'instant c'est un heureux problème entre guillemets, parce que tu mets Mihajlovic un peu plus haut sur le terrain, ça te permet d'étoffer ton milieu de terrain avec trois purs milieux de terrain qui sont des milieux soit défensifs soit relayeurs. Donc je trouve que t'as une certaine assise et une certaine c'est beaucoup plus étanche, plus étoffé au milieu, et puis c'est pas une mauvaise chose, je pense, que ça soit, ça sera visiblement New York City FC, on sait jamais. Mais écoute, moi je pense que c'est pas plus mal d'avoir un milieu à trois et d'avoir justement un Mihajlovic un peu en électron libre et puis Kamara comme expérience.
Oui, mais j'avais une sous-question qui n'est pas un non, mais j'avais une sous-question à ça. Kyoto, moi quand je voulais poser titulaire dimanche, ça voulait pas forcément dire en lieu et place de Kai Kamara, mais peut-être à deux pointes. Donc toi, la Reg, ce match-là, t'a fait dire que finalement, tu préfères avoir peut-être trois milieux de terrain et une seule pointe. Mais moi, je l'ai... après, c'est que mon ressenti, je l'ai trouvé un peu esselé, Kai Kamara, même s'il a fait un gros match, même s'il est un point d'appui extraordinaire pour ses coéquipiers, mais je l'ai trouvé un peu esselé. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un Kyoto titulaire avec Kamara, ça que je veux dire?
Écoute, un Kyoto titulaire avec Kamara... Il y a forcément un gars qui sort là dans ton équation.
Ce que je te dis. Oui, oui.
Donc
oui.
Moi, je te dis juste que dans cette config-là, Koné, c'est pas Koné, pour moi c'est Wanyama l'homme du match. Mais après Koné, il fait un énorme match. Ouais. C'est plus ça en fait. Si tu fais un calcul.
Donc c'est pas un heureux problème là, c'est un casse-tête.
C'est pas un casse-tête dans la mesure que moi je pense qu'il n'est pas à 100%. Donc c'est un heureux problème. Parce que s'il était à 100%, moi, je pense qu'il serait rentré hier. Il aurait fait quelques minutes.
Tu penses que dans un match comme ça...
Écoute, risque, en attendant, c'était tendu jusqu'à ce qu'il y ait un pénalty à la 90e plus 4. Genre, le match, c'était 1-0. Donc, c'est pas non plus... C'est pas comme si c'était 2-0 à la 70e. Non, tu te dis, OK, je le mets 20 minutes. Donc, je sais pas. C'est pour ça que moi, dans cette config-là, je me dis... Ça arrange un peu Wilfried, parce qu'au final, il a mis un milieu de terrain qui est beaucoup plus étoffé. Ils ont bien performé. Puis on en avait parlé. Sid nous avait posé la question. Si vous aviez un mec.
Oui, c'est vrai.
Un mec qui peut avoir genre une note de 10 et vous signez tout de suite, c'est qui ? Eh, mais Wanyama, mon pote.
C'est vrai. Tu as
moi, j'avais
Wanyama.
Dit Wanyama. Oui, et Wanyama, vrai. Il a fait un match de patron.
Ah ouais.
Il a fait un match exceptionnel. Mm-hmm. Et quand Wanyama va, cette équipe va. C'est lui le DP au final. C'est lui. C'est pas pour rien là. On a chialé pendant 10 ans parce qu'il coûte 3 millions, mais c'est lui le DP. Deal with it. Là, il sera pas là et les gens, ils vont être comme ah, c'est relou. 3 millions, on les met où?
Attends, on va laisser faire Renard. Attends,
on va laisser travailler Renard, mais les gens vont se rendre compte que ces 3 millions là étaient vachement bien investis au final. Parce que ce mec là, franchement, le match qu'il a fait hier, waouh!
C'est juste un petit avant de te donner la parole, Sof, est-ce que tu aurais des il y a Normand qui demande est-ce que tu as des informations? Non, aucun sur Santé de Kamara qui est sorti après une espèce de gros choc.
Non, non, mais tu peux pas avoir d'informations le lendemain de match parce qu'ils sont en congé normalement, donc on n'a pas accès aux joueurs, rien à ce moment-ci. Donc peut-être que mardi, à l'entraînement, j'aurai un peu plus d'informations, de nouvelles, mais le lendemain de match, ils sont en congé, donc t'as pas vraiment d'accès aux joueurs, sauf si lui, le joueur, a communiqué sur ses réseaux sociaux, mais je sais pas quoi.
Sauf que je te renvoie un petit peu ce que dit Alix, parce que pour Sid, il n'y a plus débat, puisque lui, il a MVP, donc il le met. OK. Mais là, Alix, il va dans le sens de Sid, justement, et il dit ils sont plus dangereux avec deux attaquants, et lui, il a choisi de mettre Piet.
Alix.
Dangereux. Je crois que le DGX, c'était on est plus dégueu avec deux attaquants.
Je Alix. Alix, arrête. Arrête avec Piet sur le banc, là. Arrête.
Vas-y, mais.
Pas Man City, là où tu le fais rentrer, là. Arrête. C'est. J'ai du mal à faire des calculs parce que je peux pas croire que Kyoto ne peut pas rentrer 5 minutes ou est limite pour être sur le banc peut-être, pour ensuite être titulaire quand il y a City FC. J'ai du mal à croire ce scénario. Je suis pas physiothérapeute, je suis pas docteur, j'ai aucun diplôme, rien. J'ai du mal à le croire. Si je me base sur ce que je vois, sur ce que je spécule, ce que je peux décider d'extrapoler, ce serait un gros risque de le mettre titulaire comme ça, là. Parce que tu le perds en 15 minutes, claquage, je me demande c'est quoi sa blessure. C'est ce qui est au jambier, je pense, je ne me rappelle plus. Mais elle me dit, ok, c'est... pourquoi pas. Je serais étonné, je préfère le garder à moins que Camara est vraiment fatigué ou blessé. Mais même ça, Camara n'est pas disponible, je mettrais Toy ou je mettrais genre quasiment un faux neuf à la place avant même de mettre le titulaire.
Donc même toi, la semaine prochaine, il ne rentre pas.
Il peut rentrer, mais pas titulaire. Okay. Si Camara n'est pas disponible, moi je mettrai Toy ou même un faux neuf à la place. Okay. Wow. Et garder Kyoto plus tard. Moi j'ai des
en
gros
fait, plus tard qui pour aller plus loin en playoff, mais si tu bats pas
non, plus tard en match.
Dans le match.
Okay. Ouais. Moi, ça c'est sur rien qui parle, là. C'est mon football. Là.
Non, intéressant. Ton
lexique.
je vais d'ailleurs rebondir sur ce que. Il m'a fait une passe décisive sans le savoir, mais vous savez, on a le partenaire dans les coulisses qui nous envoie des questions. Puis là, c'est une question un petit peu de projection que nous envoie notre partenaire, mais finalement, elle rentre dans ce que disait Reg. Effectivement, on le sait depuis une semaine, grâce à Sid notamment, qui était à la conférence de presse de Wanyama, il ne sera plus au club l'an prochain. Donc, dans les coulisses, nous demande un Chouanière Piet Koné au milieu en 2023. Ben non.
Ben non, parce que déjà Koné, il ne sera pas là. Non, mais déjà, ça c'est un et deux.
N'affirmez pas des choses que vous ne savez pas.
Il y a de très bonnes chances que Koné ne soit pas là l'année prochaine. Donc, c'est un milieu de terrain.
Est-ce que tu peux argumenter ? Quel club ? Pourquoi ?
Écoute, moi, regarde, déjà, il y a eu quand même pas mal de pourparlers au mercato estival avec le club de Sheffield United. Il y a eu Norwich aussi. Ça va probablement se faire en hiver. Donc, en plus, avec des performances comme hier, ça augmente quand même son capital sympathie dans le vieux continent. Mais c'est plus le côté, j'ai du mal à.
C'est le côté trop québécois du milieu de terrain.
En fait, je trouve que c'est pas le côté trop québécois. C'est que si tu veux rester une équipe performante et t'installer sur la durée. L'argent en fait que tu économises entre guillemets, tu dois le réinvestir au milieu de terrain, c'est une certitude. Et la personne que tu vas chercher, c'est un titulaire, c'est pas quelqu'un qui va jouer derrière Chouanière.
C'est un Wanyama bis en tout cas dans l'aura.
En quelque sorte, oui, moi c'est une certitude que si Wanyama s'en va, Renard, sa priorité numéro un est de remplacer Wanyama. C'est son taf en fait. Il pourra pas dormir tant que ça c'est pas effectué en fait, c'est sûr.
Ok.
J'ai du mal à avoir ces trois-là au milieu, là, déjà.
Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter des choses là-dessus ou ça vous semble aussi quand même très, très hypothétique, ce genre de milieu de terrain ?
Du chef éditorial Mathieu.
C'est cool, ça. Mais...
il est content, ce gars.
Ah, c'est bien le collectif. Hein. Puis le truc là, Non, ils ont besoin d'un milieu de terrain de haut niveau là. Peut-être pas au niveau comme Wanyama.
C'est plate là. Non. Je trouve que tu répètes comme moi depuis aujourd'hui.
En plus, Wanyama, que je pense même pas qu'il sera là en compte pré-saison. ils ont 60% de chance qu'il ne soit même pas là en Floride. Ou,
ah ouais, mais pour vous, carrément, il part en hiver.
D'accord. Moi, je pense. Mais je dis encore, je donne 60%, je pense qu'il va monter rapidement. En plus, je veux dire, je pense même pas qu'il va être milieu de terrain avec. Avec
ah, voilà, ça, ok. Donc ça,
je pense même pas qu'il sera considéré comme un milieu de terrain central à temps plein.
D'accord.
Parce que Renard aura des opportunités, il y aura d'autres joueurs qui ont fait métier plus que lui. Puis je pense, à moins que Nancy veut vraiment parier sur Chouanière au milieu de terrain, ou même parier sur Chouanière sur un poste spécifique sur 25 matchs titulaires, déjà. Ce serait déjà bien pour Chouanière. Mais je ne vois pas, non.
Ok. Non, intéressant. Sur question un peu plus tactique, j'en ai parlé moi dans mon ressenti. Est-ce que le jeu direct, c'est le talon d'Achille du CF Montréal pour une équipe qui veut contrecarrer le CF Montréal? Ben oui, ben non.
Ben oui.
Sid?
Ben non.
Reg?
Ben non. Non.
Non, je sais pas, je te sens un peu hésitant. C'est ma question qui te plaît pas ou...
C'est la tournure de ta question que je suis encore en train d'un petit peu d'évaluer, mais si je l'avais bien comprise, donc je me suis abstenu de te dire qu'elle était bizarre.
Là, tu donc, me forces. Donc elle n'est pas bizarre, mais tu as quand même fait une moue bizarre, dis-moi.
Bah écoute, non, je veux juste être sûr d'avoir bien compris ta question. Donc en fait, c'est le jeu de l'adversaire, donc face au CF.
Exact.
Parfait.
Non, exact, c'est-à-dire exactement un peu ce qu'a fait Orlando pendant les 70 premières minutes.
Non, je dirais que non.
Ok. Non. Sauf que t'es seul contre tous.
Pour moi, c'est ce que j'observe cette saison. À moins que tu veux jouer le jeu avec Montréal, tu fais comme si c'est natif, faire 10-6-4. Ou. Montréal n'a pas. De mémoire, je pense que Montréal a un club qui l'a vraiment défié.
La tu même veux dire façon. Au jeu-jeu qu'il a défié
arme à arme, ouais. Ouais, arme à arme de façon.
Est-ce que tu trouves le début de saison ou pas?
Oh, un peu, oui. J'ai... Peut-être les Red Bulls, quand Montréal a gagné un Red Bull. Puis Red Bull a fait le jeu un peu, mais Montréal aussi.
Philadelphie aussi, les avait quand même gênés.
Non, Philadelphie, c'est un rouleau compresseur. Là. à Montréal, il y avait un match à Philly où ils n'étaient pas loin. Ils avaient gagné à Philly? Non, ils n'ont pas de Philly.
Non, ils ont perdu à Philly et au Saputo.
Mais en plus, à Philly, ça avait bien commencé, mais non, j'ai... Il n'y a pas d'adversaire qui a vraiment décidé. Il n'y a pas eu un va-et-vient où c'était
ça. Quand tu dis rouleau compresseur, ils ont bien joué quelque chose, Philly.
Oui, mais je veux dire, genre, Philly, ils ont vraiment dominé. Quoi. Vraiment dominé, mais je ne me rappelle plus du match à Philly. J'ai un blanc de mémoire. Je me rappelle juste du sud.
Et ici, c'est sur le coup franc, tu sais. Le coup franc que personne ne touche, là.
Ah oui, ok. Ok, merci. Ouais. C'est longtemps, je me rappelle. Donc, ouais, moi, je pense que c'est jeu direct. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je jouerais Montréal si j'ai pas. À moins que je m'appelle LAFC ou Philly. Même Philly, je pense, peuvent se permettre de faire un sorte de bloc, puis aller parce qu'à l'inverse, ils vont faire du pressing. Donc, pour moi, c'est le talent d'Achille, en guillemets, parce que quand tu joues haut, que Montréal mène 2-0 ou que c'est 0-0, ils vont tout le temps essayer de jouer le plus haut possible, pas à chaque fois, là, ils vont décider. Mais je pense que c'est pas nécessairement un contre, juste un jeu direct, là, un long ballon bien placé, ça peut faire mal.
Okay.
C'est comme ça que je vois.
Sid, j'aimerais t'entendre là-dessus aussi.
Écoute, j'estime que Montréal s'est très bien accommodé de ce qu'on appelle le jeu direct. Il ne suffit pas de jouer rapidement ou verticalement pour les déranger. Il faut jouer dans des zones très précises. Donc, ça va au-delà de jeu direct. Et ça, tu peux le faire aussi en attaque placée. Donc, il y a de l'espace derrière les centraux. C'est le point faible d'une défense à 3. On le sait. Et puis, à chaque fois qu'une équipe est en mesure d'attaquer cet espace-là, ils font des différences. À Montréal, il faut surtout travailler la phase de transition à la perte du ballon, où tu peux être embêté parce que tu as un jeu qui t'amène à avoir de nombreux joueurs dans les 40 mètres adverses, donc beaucoup de joueurs qui sont très hauts sur le terrain, donc à la perte de balle, forcément, t'es exposé. Mais c'est pour le vrai point faible du CF Montréal, et ça se voyait avec le décalage sur le nombre de buts encaissés par rapport au nombre de buts qu'ils devraient encaisser. Il y avait un énorme décalage lorsqu'on était dans les statistiques avancées. C'est la qualité des tirs qui laisse. Montréal a une vraie faiblesse dans...
Il laisse trop tirer l'adversaire, tu veux dire?
Non, vraiment pas. En termes de volume de tirs subis, c'est ils sont très très forts. Donc, c'est-à-dire qu'ils permettent à l'adversaire de tirer très peu de fois au but. Okay. Par contre, la qualité des tirs de l'adversaire est trop élevée. Et c'est là où
c'est pas de leur faute alors. C'est plus,
mais si,
c'est plus...
évidemment que c'est leur faute. C'est, ah, la manière, c'est comment tu vas cadrer ton le porteur. Comme,
c'est pas la qualité du tireur comme on avait l'année dernière.
Non, non, c'est de la MLS, hein, qualité de tireur. Non. non. C'était gratuit. J'arrive. Mais l'idée, c'était
vraiment gratuit.
C'était vraiment. Non, c'est vraiment qui. Le problème étant que pendant trop longtemps, le CF Montréal a accordé des tirs qui sont trop de bonne qualité. Puis lorsque tu as un gardien qui est juste normal, il va prendre le but. Et là, il y a un progrès à faire. Parce que dès qu'ils sont pris dans le dos, je veux dire, Cara, il rate une action énorme. Pense que...
Énorme. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
Elle est passée sous le radar, mais la zone dans laquelle il est, un attaquant a un peu plus de qualité que lui. C'est but.
Non, je suis d'accord.
Et
non, mais il est vraiment tout seul.
Le problème, c'est que Montréal défend très bien jusqu'à ce type d'occasion, qui sont des occasions beaucoup trop nettes. Et c'est ça vraiment le point faible. Et d'ailleurs, en fin de saison, sur les 8 derniers matchs, ça a été énormément corrigé côté CF Montréal. Puis tu as eu un retour à la moyenne, si je peux dire, sur les blanchissages et sur le nombre de buts encaissés. Tu vois, sur les 8 derniers matchs, voilà, peut-être après Toronto, peut-être, je vous dirais. Bien que Toronto, il y a un pénalty, mais c'est fou à quel point Montréal accorde des trop bonnes chances. Et c'est ça leur point. C'est ça surtout leur talon d'Achille sur l'aspect des défensifs. Après, offensivement, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais... Toy, c'est quand son dernier but. Torres, c'est quand son dernier but. Milevic, c'est quand son dernier but. Tu joues moins parce que tu ne marques pas de but. Donc, mais regarde sur les 13 matchs, sur les 10 derniers matchs qu'ils ont fait, son nombre de minutes jouées. Avant le match contre l'Inter Miami, le dernier but de Mihailovic, c'était contre Toronto. Il y a eu des... Offensivement, il y a eu vraiment des grosses périodes de sécheresse. Puis ça il faut quand même s'en méfier. Mais écoute, je dirais, c'est ça. Moi, c'est plus là que le jeu. Il y a moins deux, trois trucs que je te mettrais avant ce jeu direct. Parce qu'en plus, de toute façon, parce qu'on a pu le voir hier, hein, même un Pereira, qui est un des meilleurs créateurs dans la Ligue, il s'est retrouvé à aller chercher le ballon dans les pistes centraux, avoir aucune cible offensive. Et au final, même si tu as un joueur qui est de qualité, qui a un pied de qualité, tu vas balancer un ballon, puis en vrai, je l'ai bien montré, tu as bien expliqué, tu as un joueur, il est complètement isolé. C'était le cas de Benteke, c'était le cas de Higuain, c'était le cas hier de Cara, c'est le cas de tellement de joueurs qui... Montréal étouffe tellement ses adversaires qu'il y a une distance énorme entre les milieux et les attaquants adverses, que même quand tu joues directement, et ça te prend un sacré bonhomme pour être capable de faire cette différence-là un peu tout seul, parce que finalement, le temps que tout le monde le rejoigne, après que le ballon a été mis directement, c'est compliqué. Mais voilà, donc c'est pas tant la verticalité que ça qui me dérange comme le talon d'Achille.
Oh,
c'est sûr que voilà.
Mais justement, je vais quand même surenchérir là-dessus, parce qu'il y a Alix qui donne quelque chose d'intéressant, et encore une fois, lui, il dit que c'est vrai que le Red Clock Lake était venu battre Montréal avec beaucoup de jeux directs, notamment Cordova et sa vitesse. Effectivement, la verticalité, tu as souvent cité la Reg, Higuain, Cara, Benteke, qui sont des attaquants un peu immobiles, entre guillemets, qui ne jouent pas sur leur vitesse. Mais quand tu as un Cordova ou à New York City aussi, ça va vite aussi sur les côtés notamment. Est-ce que ça peut devenir Reg, le talon d'Achille, en tout cas, ce jeu direct sur... comme l'a dit Sid, sur des attaquants beaucoup plus mobiles et beaucoup plus vivaces, comme ceux du Real Salt Lake quand ils sont venus à Montréal. Ils étaient derniers quand ils sont venus.
Ouais. En passant, Orlando, là, ils sont rapides. Juan, Angulo, ça court vite sur les côtés.
Tu parlais de l'attaquant...
L'idée, c'est que... L'attaquant, il est déjà 20 mètres plus haut que généralement que ses ailiers ou ses milieux offensifs. Mais va mettre un ballon à ces joueurs-là, et qui est capable de traverser ben, la Palanen, Johnston, puis ensuite Miller et.
C'est arrivé une fois.
C'est pas un TS. Je veux dire, sinon, c'est un pattern qui est facilement exploitable et ce qui est récurrent. Puis Real Salt Lake, c'est loin. Il faut prendre les saisons par cycle. Et sur les derniers matchs, moi, ce que je vous dis, les ajustements, je te parle de la séquence de 8-10 matchs. C'est ce qui s'est passé avant. Je veux dire, sinon, imaginons, on prend le match d'Orlando, le 2-0, où Montréal n'est pas capable de faire 3 passes sans manger un pressing et mettre le ballon contre son camp quasiment. Ou même le ralenti du but. Non, c'est le ralenti de l'action, l'impression que c'est le but, mais en fait, c'était le ralenti de l'action précédente.
Les Red Bulls, ils marquent comme ça. Ils marquent vraiment dans la verticalité avec quelqu'un qui va vite, et c'est sur cette notion.
Non, mais après ça peut arriver, mais après j'avais dit ben non, dans le sens que je sais pas, ça reste quand même c'est le
sachant que toi Red, t'as à chaque fois dit Montréal est l'équipe qui a encaissé le plus de
buts. Elle prend des mais après c'est ça n'empêche l'un n'empêche pas l'autre.
Oui c'est vrai.
Oui elle prend des buts, mais c'est pas nécessairement le jeu direct qui est le talon d'Achille. Non, moi je réponds à ton affirmation en fait, c'est plus ça. Moi, bien sûr, comme à Dicid, puis je le disais souvent, c'est que cette équipe-là, ils l'ont quand même corrigé, certes, mais il y a souvent eu des problèmes, comme les 10 premières minutes du match, il y a comme une énorme occasion, tu te demandes, en fait, ils ne sont pas arrivés dans le match, ou ils ne sont pas réveillés, ou il y avait toujours un truc très souvent au début du match, très très tôt, et des grosses occasions, et comme il disait Sid, c'est des occasions, mais nettes et franches, genre tu mets un vrai neuf, c'est extrêmement
problématique.
C'est des vraies occasions.
Mais c'est ça le truc, c'est que parfois il faut, oui, t'as des tendances très lourdes, mais c'est important aussi d'être un peu cyclique aussi dans notre analyse.
Tout à fait.
Ils ont encaissé 7 buts dans les 10 derniers matchs.
Ah non, c'est ça. Donc cette équipe,
c'est très bien, c'est excellent même. Je veux dire, tu t'es ajusté. Donc il y a des choses que oui, qu'on disait, qui étaient vraies sur des moments où Montréal était un peu une équipe, t'as l'impression qu'elle était un peu ping-pong dans sa façon de. On va marquer un but de plus que vous, puis ça. Ça va aller, mais il y a eu un ajustement à la fin de l'été.
Puis par rapport à cet ajustement-là, au final, là, il y a très peu d'occasions d'Orlando là. Genre, c'est ça. Genre, oui, Cara, il a la grosse occasion. Après, il y a, je crois, comment il s'appelle, Antonio Carlos là, qui contrôle la poitrine, il fait une volée, elle va au-dessus.
Non, il y en a plus. Il y en a plus. Je suis d'accord avec toi, mais
il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a trois là. On a trois sur une équipe qui sait qu'elle va avoir le ballon. C'est beaucoup.
Moi, je pense que 90 minutes, c'est pas beaucoup. Hein, sachant qu'ils étaient dans le match jusqu'à la...
Pour un bloc pas qui a eu genre 11 minutes où genre Montréal a se dit on va un peu bétonner, je sais plus, parce qu'ils ont eu un peu de confiance. Mec, trois occasions franches, c'est beaucoup.
Cinq tirs dans le total du match, zéro cadré, et on parle de deux ou trois occasions, c'est beaucoup sur 90 minutes.
À la qualité des occasions, t'as Angulo.
Non, mais le ratio aurait dû peut-être.
T'as Angulo, excuse-moi, c'est de la grosse qualité.
Bon, au final, c'est pas de la grosse qualité, vu que les expecting goals, au final.
Moi, j'ai pas d'occasion.
C'est les chiffres qui parlent, c'est pas moi, là.
Ok, tu parles les chiffres, utilise les chiffres de la bonne façon. Expected goal, c'est est-ce que tu faisais marquer dans la position où tu es. Moi, je parle d'occasion pour arriver, je parle même pas du tir, je parle quand t'arrives là-bas. Comment ils sont arrivés là-bas? Bah, Angulo qui divise sa frappe, c'est son problème, mais ils sont arrivés là-bas.
Non, mais c'est pas son problème, je suis pas d'accord avec toi. À partir du moment que t'es comme dans une bonne... Je veux dire, après... Je sais pas, si le mec, il est dans une bonne situation pour marquer, puis tu considères que c'est une grosse occasion, le expected goals, il doit être élevé. Sinon, c'est pas une grosse occasion. C'est juste une frappe de... on dit, alors c'est ça.
Mais non,
donc, si le expected goals, il est faible, pour moi, c'est pas des... Donc, c'est pas des grosses occasions.
Si l'attaquant d'Orlando, il reçoit le ballon sur le point de pénalty, mais c'est pas terminé parce qu'il passe la balle par erreur, puis il rate de là, ou que c'est une transversale de 60 mètres de Pereira qui tombe sur l'attaquant d'Orlando au point de pénalty, puis il rate du point de pénalty, c'est le même expected goal. Il tire au même endroit.
Plus maintenant.
Ah.
Ok, bon, plus maintenant, super. Donc, oublions expected goal. Je m'attends que je m'en fous comment le ballon arrive. Si le gars a genre 10 secondes de d'armer sa frappe du point penalty, puis il rate de façon grave, il a raté. Je parle de la qualité de l'occasion. C'est différent que si Pontemis qui te passe le ballon comme un zozo, ou que c'est une belle passe qui traverse la défense, qui se fait avoir. C'est très différent. Ou que c'est Urso qui va presser Camara, qui perd le ballon, et qu'ensuite va lâcher rapidement à Pereira, qui va lâcher rapidement à je sais pas qui. Je suis pas
donc,
plus
ce qui détermine ça, par le expected goal, c'est comment tu arrives à l'action. C'est pas juste le fait que le gars.
Non, non,
là...
moi je parle plus de ça là. Oublie. Moi, je parle
non,
plus
non,
de
lui,
ça.
Lui, okay. Parle pas ça.
Non, non, moi, je parle de par rapport à la qualité de l'occasion. En termes de qualité d'occasion, qualité, comment l'action est arrivée déjà, la qualité de l'action.
Mais non, excuse-moi de t'interrompre. Donc, du coup, la qualité de l'action, si on parfait, on met de côté tout ce qui est expected goals et tout, peu importe, tu dis comment il s'est rendu là. Le résultat.
Non, pas, je dis pas en part.
Tu l'as dit tout à l'heure. Peu importe comment il s'est. La construction et comment il
s'est. Oui, parce que j'assumais que l'expected goal était le même dans les deux cas.
Ah, ok. Donc, bon, voilà, c'est qu'au final, si un joueur, genre, il se retrouve dans une situation X et qu'il doit mettre un but, vu que c'est une grosse occasion, par rapport à l'endroit où il est.
Oui.
S'il le loupe, donc c'est une grosse occasion, peu importe ce qui arrive.
Et s'il marque, c'est une grosse occasion, ok. Mais les deux, c'est une occasion. L'occasion, c'est marquée.
Ouais, mais bon.
Et après, c'est le résultat. Moi, je ne parle pas de résultat. Je parle genre les trois chances. Ouais. En plus, le coup franc d'Orlando, ils ont fait une combinaison où Montréal a dormi. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait. D'où la reprise de volée de Carlos Antonio qui n'a pas marché. Là. Très belle combinaison.
Antonio Carlos,
où ils ont. Où, pas qu'ils ont dormi au gaz, ils se sont fait avoir. Mais ils ont fait une combinaison rapide. Ils ont laissé trop d'espace. Au tir du coup franc, puis le gars qui est venu chercher le ballon, ils avaient 10 mètres à marcher, puis ils ont pu faire un centre rapide, puis Montréal jouait un peu la ligne haute, c'est pas très clair, peut-être communication, peut-être juste Orlando a très bien joué le coup, mais je parle de ces trois occasions-là, elles sont de très haute qualité, elles ont été bien construites, maintenant qui marque pas, ça c'est une autre étape de l'argument, mais mon argument principal, je suis pas d'accord quand on dit que trois occasions, c'est pas beaucoup. Quand tu joues un bloc bas, quand tu sais que tu vas te donner par Montréal et que tu as trois occasions, les trois en première mi-temps, comme j'ai dit au début, aucun drame qu'à la mi-temps, c'est 2-1 Orlando. Il n'y aurait aucun drame. Il n'y aurait aucune controverse, plus ou moins le VAR.
Je te rejoins.
Plus ça, je parlais plus par rapport à ça. D'où le jeu direct d'Orlando me fait dire, en moins que tu es New York City FC, tu veux jouer le jeu. Ils ne l'ont pas fait à Montréal, mais ils venaient de perdre Castellanos. On verra, je sais voir 2-3 matchs avant, après Castellanos, après Montréal, là, le premier match, sans Castellanos, pour voir ce que ça donne. Mais c'est pour vrai, moi je parlais de jeu direct, parce que Orlando, ils ont montré comme les Red Bulls, tu fais ça, si tu veux battre Montréal, de cette façon-là. Maintenant, si tu fais mano à mano, fais mano à mano, personne ne l'a encore fait, sauf Philly un peu. À la maison.
Ouais, mais bon, ce qui me dérange un peu, c'est que dans ta façon de voir, tu comptes que les situations d'Orlando, mais si tu appliques la même logique aux situations de Montréal, à ce moment-là, Montréal aura quand même l'avantage sur le résultat. Il faut quand même prendre en considération que justement les expected goals, ça te mesure la qualité des chances que tu produis. Donc,
mais moi, je ne parle pas d'expected goals.
Moi, je t'en parle parce que ça, lorsque tu fais 0,5 en expected goal, c'est-à-dire comme tu n'as pas créé suffisamment de chances de qualité. Donc, comme tu as pu en créer une ou deux, puis on a parlé de le raté de Cara. Pour moi, ça, c'est sûrement une grosse partie d'ailleurs de leur expected goal. La deuxième opportunité, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais Montréal s'est créé plus de situations de qualité qu'Orlando. Et c'est là où.
Moi, je pense que Montréal a seule une occasion devant le but où le. C'est la frappe de Koné, c'est la seule frappe de Koné où un joueur a vraiment frappé sur le but. Dans une occasion franche, Orlando a frappé vers le but. Mais je la vois aussi par rapport à l'adversaire.
Non, mais juste. D'accord, attends une seconde. C'est comme par rapport à ta propre logique. Quand Piet il fait le centre, super centre.
Oui, à la Palainen.
Et que genre comme ça, il y a un rebond, à une fraction de seconde, la Palainen est libre. Mais c'est ça que je veux te dire. Donc,
je ne suis pas contre.
Ben, en appliquant cette logique-là de prendre les situations, parce qu'en fait ce que toi t'amènes, c'est qu'il y a des situations qui sont qui résultent pas forcément dans des tirs, mais qui te montrent qu'une équipe a été très dangereuse. Lorsque tu prends la même logique que tu appliques à Orlando et que tu la mets aussi à Montréal, Montréal a dominé sur les demi-temps.
Je dis pas le contraire, mais là tu me fais dire que je les compare. Je compare même pas les deux. Chacun fait son match, chacun fait dans son propre camp. Orlando n'a pas la pression de devoir gagner ce match. Eux, c'est fini leur saison. US Open Cup, on est bien, Nani n'est pas là, tout le monde pense que Nani est encore là, tout va bien. Nous, on est chill, ils sont bien. ils ont montré qu'en 15 minutes, les gars, on a failli les avoir. Sans perdre 2-0, 2-1. Là, ils se mordent les doigts à la mi-temps. Ils le savent. Parce qu'ils savent qu'à la deuxième mi-temps, ça va faire mal. Ils le savent. Donc, c'est pas pour ça. Maintenant, les occasions, là. Johnson, il fait 200 de points à mi-temps. Deux centres, qui décident de les prendre, ça panique. Kai Kamara, la Palanen, le ballon remodit 15 000 fois. Heureusement, c'est des occasions dangereuses. Mais ça, je m'attends ça de Montréal. Je m'attendais parce que c'est ça qu'ils font tout le temps. Et bah, dès qu'ils balancent son ballon, même si c'est un mauvais ballon ou un ballon imprécis, il y aura quelqu'un. Parce que c'est pas assez mal imprécis, c'est fait exprès. Et quand ils disent de construire, ils construisent. Moi, c'est, je fais juste l'équilibre par rapport à ça. Par rapport à Orlando, c'est ça. Mais c'est, maintenant, c'est, si on fait maintenant les occasions, peut-être Montréal en a 10, puis Orlando en a
5. Ouais, c'est ça, c'est que Montréal a pas eu plus. Parce que, en gros, dans le sens que je comprends pourquoi tu as réagi, comme Red a dit, ouais, ils ont eu 3 occasions, c'est pas beaucoup. Ok, non, c'est comme dire au foot de haut niveau, ça reste beaucoup si tu as des bonnes situations. Sauf que je trouve que Montréal, dans le même temps, ils en ont eu 5-7. Donc,
jamais dit contrat.
Donc, c'est pour ça que. Au final, dans la balance, si on trouve que c'est beaucoup pour Orlando, mais alors, tu sais, comme qu'est-ce qu'on va dire du côté de Montréal? Et par exemple, pour le cas qui est peut-être la plus grosse occasion de cette première mi-temps, c'est la Palenen qui connecte pas avec le ballon. C'est statistiquement, c'est rien. C'est il y a rien de là, puisque tu tapes pas dans le ballon. Tu vois, alors que.
Et moi, j'attends ça comme occasion, c'est une occasion pour moi.
On sait tous que c'est une occasion incroyable, genre, comme sur lequel.
La tête des croisés de Camara qui passe trop loin, pour moi, c'est une occasion. Il a battu son défenseur. Le défenseur était. Non, mais elle n'est jamais rentrée. Mais le défenseur, il s'est chié dessus. Il dit oh, je me suis fait avoir. Il s'est fait avoir parce qu'il ne s'attendait pas que Camara l'a cherché. On a vu Camara marquer des buts plus compliqués que ça. C'est plus par rapport à ça. Moi, c'est ça mon point. C'est par rapport à ça. Maintenant, je ne savais pas qu'ils avaient changé ça, là, même. Ok, fine.
Intéressant. Merci beaucoup les gars, j'ai bien aimé surtout ce dernier débat tactique, j'adore ça quand vous partez dans la tactique. On va passer une dernière petite page de pub, puis on va revenir sur, vous le savez, la MLS is back, hein, c'est en cours, c'est maintenant, et puis j'ai deux petites questions de la part de notre partenaire dans les coulisses à vous proposer justement à travers ce petit... Je cherche en même temps la pub que
pas
je trouve pas...
Là, tu peux enchaîner, c'est correct. Vas-y, sur les questions dans les coulisses, ouais. J'imagine que tu avais avec quelques-unes en banque.
Exact. Alors, la prochaine, je l'ai mis dans ma partie MLS is back. Vous allez comprendre pourquoi, même si elle est très très proche du CF Montréal. Mais notre partenaire nous demande si Wilfried Nancy sera-t-il sur le banc du CF Montréal l'an prochain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi, c'est Sid qui a mis à chaque fois les votes sur Twitter. Puis, on s'aperçoit qu'il y a, je crois, 3-4 journalistes déjà qui auraient donné Wilfried Nancy meilleur entraîneur de la saison. Donc, je me suis permis de reprendre cette question qui était finalement assez pertinente parce qu'on pense forcément MLS, mais peut-être que Wilfried Nancy a des velléités aussi, comme les joueurs, d'aller autre part. Est-ce que vous le voyez sur le banc l'an prochain? Alors, c'est hypothétique, on sait, on est vraiment dans des prédictions, hein, c'est marqué, hein, prédictions. Il n'y a pas de ben oui, ben non, mais on sent que, le nom de Wilfried Nancy aujourd'hui, c'est plus, on en rigolait peut-être il y a 6 mois, Sheikh Nilton à chaque fois disait à Reg, meilleur coach, puis si, disait non, il faut être dans les deux premiers, voire même le gagnant MLS, etc. Et puis là, on s'aperçoit que on n'a pas ils ont fini deuxième, super saison, ils battent des records, et puis il y a des journalistes qui, le journaliste de Philly notamment, de Philadelphie, c'est ça, Sid?
Non, c'est les journalistes plus de la MLS, c'est-à-dire du site MLS Soccer qui ont donné leur vote sur...
Mais ils le rendent public, c'est ça?
Bah, si ils disent pour qui ils votent, je pense que tu as la réponse à ta question, mais pour le coup...
Non, mais je veux dire, tout le monde le fait ou on a juste ces 4-là?
Je sais pas, fais tes recherches, Julien, arrête de poser des questions comme ça sans. Mais pour le coup.
À l'emporte-pièce.
Ouais, non, c'est ça, genre comme. Un petit peu quand même, mais bon. Surtout d'abord, on va revenir à la base. Steve Chirondolo et Jim Curtin et Wilfried Nancy sont nommés pour le coach de l'année. Et donc, tu as certains journalistes de MLS Soccer qui, eux, se sont positionnés. Est-ce que c'est pour créer du contenu? Est-ce que c'est leur vote? Ça, je sais pas, parce que pour le coup, je suis même pas certain de savoir c'est qui est le panel de votants. J'imagine qu'il y a une partie des clubs, justement président, directeur sportif, et après journaliste sélectionné. Donc voilà. Donc il y a trois personnes d'MLS Soccer, Tom Boger notamment, je pense Matthew Doyle, peut-être Andrew Wiebe, qui ont dit que pour eux, ils voyaient Wilfried Nancy coach de l'année. Donc, ils embarquent dans le bandwagon. C'est bien, c'est cool.
Est-ce que ça pourrait éventuellement jouer dans le fait de... au même titre qu'un joueur avec un coach soit aussi courtisé avec des challenges peut-être plus intéressants.
Je serais étonné à moins qu'il reçoive une grosse offre là, honnêtement je le vois pas. Même si ça gagne la coupe à MLS, puis ça va pas faire une Ronnie Dyla comme New York City là. Ça gagne la coupe à MLS puis s'en va au Standard de Liège. J'ai un doute.
Mais qu'est-ce qui te fait douter? C'est parce que tu trouves qu'il est trop petit ou parce que
il y a pas de CV avant, c'est la première fois qu'il est coach. Être que entraîneur principal, entraîneur senior. À moins qu'il y ait des contacts, là, je sais pas. Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est calé sur réseau de contact. Est-ce qu'il va joindre le staff de Bologne comme assistant entraîneur? Je ne sais pas. Je ne connais pas les ambitions de recrutement, honnêtement, là. Mais je vois pas sur notre banc l'an prochain. À moins qu'il y ait vraiment un conflit contractuel, là, qu'ils sont pas capables de renouveler après l'année d'option donc pour 2024 là, pour trouver une entente au-delà de 2023 parce que je pense qu'il faut renouveler ça maintenant là. T'attends pas juillet 2023 pour finaliser tout ça. Ou tu peux, c'est ton choix là, tu fais ce que tu veux. Je vois pas notre banc l'an prochain à moins de vraiment une offre mirobolante, même comme peut-être assistant dans un club énorme.
C'est mirobolante,
mais mirobolante, après... mirobolante. Oh. Ouais, exactement, merci.
Oh, donc, quand même, on est une émission sérieuse.
Il fallait pas me prendre, les gars. Si vous voulez sérieux,
je te dirais justement, tu vois.
Je vois pas, à moins d'être dans un staff d'un grand club.
Ouais, ok.
Je vois pas pourquoi il serait pas l'année prochaine. J'y crois pas.
Ça nous soulage parce qu'on veut le voir avec nous l'an prochain. Deuxième prédiction de notre partenaire dans les coulisses. Il nous demande qui vous voyez en finale MLS. Je vous annonce juste les demi-finales puisqu'on les connaît à 85% maintenant. Philadelphie, Cincinnati. Cincinnati qui a créé la surprise en allant gagner aux Red Bulls. On a New York City, CF Montréal, ou plutôt CF Montréal, New York City. On a un derby chaud bouillant de Los Angeles, donc le LAFC face au Los Angeles Galaxy. Et puis on a Austin, après une victoire incroyable contre le Red Salt Lake, qui va affronter le vainqueur de Dallas, Minnesota, qui va se jouer tout de suite. D'ailleurs, le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes.
C'est dur, là. Il pourrait nous demander le carré d'as, tu vois.
Non,
là,
bah...
c'est quand même.
Il y a un derby, en tout cas, qui s'annonce incroyable.
Qui voyez-vous en finale à MLS?
Moi, je pense que la finale, ça sera.
Je pense que je suis d'accord avec toi. Là.
Moi, je pense que ça va être Philly contre LAFC. Je pense.
Ah, exactement. J'allais dire exactement la même chose. Ouais, non, je pense que Montréal a des grandes chances, mais je vois Philly et LAFC. Ouais.
Ah, moi, je les vois. Ah, ok.
Montréal, ils vont gagner, je pense, contre New York City.
Okay.
Ils vont se rendre en finale, mais Philadelphie, ça va être trop gros. Ça va être trop gros. Okay. Et c'est pas à domicile en plus. Contre
non,
Philly.
Ça va être à Philly, ouais.
Bah, c'est ça. Alors que si. Bah,
Philly passe. Ouais.
Si c'est Cincinnati, ben à ce moment-là, le match de Montréal, ils peuvent se rendre. Mais bon, là, ma prédiction, elle ne tient plus la route. Mais bref, ouais. Moi, je pense vraiment que Philadelphie, ouais. C'est trop gros. Et
trop gros.
Ouais, c'est trop gros. C'est pour moi, c'est une grosse équipe. C'est un rouleau compresseur. On l'a encore dit tout à l'heure. Regarde.
Ouais. Je vous contredis par rapport à la semaine dernière, mais où je dis Montréal all-in, là, mais c'était un all-in pour une autre question. Un peu dit différemment là, mais ouais, LAFC, je vois LAFC Philadelphie, c'est vraiment typiquement NBA Ligue des Champions là, c'est les
sachant les que juste, big juste comme ça, hein, mais le prochain match de LAFC c'est quand même contre Los Angeles Galaxy, c'est pas non plus
mais Los Angeles Galaxy ils sont qualifiés pour les playoffs un peu par la peau des fesses, un petit match gagné 1-0
solide contre Nashville, hein.
non j'en doute pas, mais je sais pas, moi je pense quand même LAFC c'est au-dessus là, genre c'est
Julien à la mi-temps Montréal ils ont survécu 3 occasions franches de Orlando, donc le foot ça va vite.
Après, regarde, moi j'ai vraiment aimé Assoun, il avait dit un truc quand il est passé à Radio-Canada, puis c'est vrai, quand tu arrives en playoff, il y a un côté aussi.
T'écoutes Radio-Canada?
Non, c'est sur Twitter en fait.
il était énervé, hein. Oh là, tu l'as énervé là. Oula.
Assoun a été tagué et j'ai voulu voir son petit segment. Je l'ai
écouté. Non, mais c'est bien, j'étais content.
dit, on te croit tellement, tu ne peux pas faire comme ça.
Et non, et franchement, il a raison. C'est vrai qu'en play-off, c'est... et puis il faut faire attention à ça, parce que là, c'est vrai, là, je suis parti, ah, c'est l'Union contre LAFC. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne en play-off. C'est vrai qu'il faut, faut garder ça en tête. Et là, pour le coup, je pense qu'on l'a vu hier, ça aurait pu ne pas être la meilleure équipe qui gagne. On sait que Montréal est supérieur à Orlando. Sur un malentendu, il aurait pu avoir des trucs qui fait que Montréal sort par la petite porte et tout le monde aurait été vraiment déçu. Et ça aurait pas été non plus scandaleux sur l'ensemble du match. Ouais. Mais forcé quand même d'admettre que
le talent.
Quand tu vois les deux effectifs, la saison qu'ils font. Puis je trouve qu'il y a un peu plus de métier contrairement à New England qui eux ils ont survolé la saison, ils sont arrivés en playoff et gars, c'était vraiment
n'importe quoi. N'oublie pas deux choses Reg, hein. D'après, je sais pas si t'étais là, mais d'après le tableau de Nilton la semaine
oui je me rappelle quand il avait montré le tableau là.
Et non, excuse-moi, Benoît nous le rappelle, mais Montréal est la meilleure équipe sur la route ever.
C'est pas faux mais son match sur la route à Philadelphie s'est passé quoi?
Perdu au début de saison.
Certes. La réalité du début de saison n'est pas la
réalité du début de saison. Ouais.
Mais le truc, c'est que.
Mais là, c'est la spéculation, là. Et tu imagines
dans le pur cliché.
Mais là, il y a des arguments, quand même. Mais c'est un argument, ça.
Dans c'est un très bon argument. Dans le pur cliché qui puisse exister, tu peux seulement les prendre les matchs à la fois. Mais normalement, il n'y a pas plus cliché que ça. Mais le truc, c'est que chaque match, c'est son tournoi. Chaque match, c'est son propre mini-tournoi. C'est ta Coupe du Monde à chaque match. T'as pas le choix. Tu le prends comme ton dernier match et tu fais all-in.
Ça, c'est la réponse de Sofiane face aux caméras. Ok.
Face à qui? Aux caméras.
Aux caméras. C'est quand
conférence après match. J'ai dit fidèle FC, je sais ce que je vois. Mais.
Moi, j'ai peut-être.
Montréal, Austin, c'est pas mal ça.
Ouais, mais tu rigoles, mais.
Non, je ne crois pas.
Moi, Austin, je l'ai dit depuis le début de saison, c'est mon équipe.
Forcément. Comment il s'appelle le propriétaire?
Là, je ne vais pas le dire, mais j'aime bien cet acteur.
Vas-y, c'est quoi le nom d'un des propriétaires?
On termine l'émission sur Matthew McConaughey.
McConaughey, c'est pas mal.
McConaughey, mais c'est pas que tu l'as mal dit, tu as inventé un prénom en fait. C'est pas exactement...
Il s'appelle pas Matthew?
Oui, son nom de famille, McConaughey, c'est McConaughey.
Il a transformé un peu genre, c'est comment, je sais où.
Mais je sais que t'es capable de le dire, c'est pour ça que je dis, t'as comme plus.
Non, franchement, c'est un acteur, je suis. Il est compliqué.
Le nom, l'acteur.
Oui, c'est vrai que j'ai eu un doute aussi. Matthew McConaughey.
Bah, on va terminer là-dessus en se disant qu'on va quand même mettre ça. Moi, je vais mettre. Je vais mettre Austin Montréal. Voilà.
À toi aussi.
Ouais. Moi, je mets Austin Montréal.
Pourquoi pas? C'est valide.
Et en plus, ça serait une super finale pour le coup.
Ouais, bah oui, je pense que ça serait.
Non, je vais être honnête là. À part Cincinnati, les autres équipes, c'est valide.
Minnesota, c'est pas non plus ouf.
Ah ouais, j'ai déjà oublié les autres. Moi, pour moi, je voyais Austin passer déjà. Là. J'ai déjà oublié. Ah putain.
Non, Dallas, j'aime bien, mais Minnesota, c'est pas fou.
Pour moi, Austin passait déjà. Là. Je sais pas calculer. Tu joues lundi soir à 20h30, c'est 21h, c'est bon. Là, arrête. Ton destin n'est pas dans tes mains. Ton destin n'est pas dans tes mains. C'est fini, tu joues lundi à 21h30. Arrête, c'est bon.
Alors, on va terminer là-dessus. Normand nous dit Montréal Austin aussi. Et Marco, Montréal Galaxy. donc on va terminer sur ces prédictions. Je vous remercie bien sûr d'être autour de moi ce soir. Merci aussi à dans les coulisses de nous avoir fait part de toutes ces questions. Merci à vous qui êtes resté aussi tard avec nous. Ouais, Reg.
Non, je voulais juste. C'était l'anniversaire de Max Ligo qui nous salue. Donc, c'est cool, il nous salue. Juste un joyeux anniversaire en ondes.
Ah, voilà. Petite bière, Maxou. N'hésite pas, la revoilà. La plus populaire des bières.
La canne. Donc, si jamais tu vas au stade, t'as intérêt à prendre une canne au tailgate.
Eh oui, n'oubliez pas, donc dimanche 13h, CF Montréal accueillera New York City FC. Venez au tailgate, comme vous l'a dit Sid, vous avez vu les vidéos, c'est une ambiance de feu vraiment à chaque fois. Donc, si vous pouvez arriver avant, n'hésitez pas à passer au tailgate du 1642. Pour l'ambiance, puis ensuite voilà, on va essayer de faire en sorte d'aller on va espérer que le CF Montréal se rende en finale de conférence pour la deuxième fois de son histoire après avoir chuté contre Columbus, c'est ça la première
Toronto.
Fois
sauf Toronto
Toronto, excuse-moi. Columbus en demi-finale. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je vous souhaite un très très bon lundi et une très très bonne semaine. Et puis, on se retrouve, je l'espère pour la plupart, dimanche 13h au Stade Saputo pour la demi-finale des playoffs.
C'est quand même bien hein, pour une gang de Rosnob. Hein. On fait 1h30, pas de mention de ballon d'or.
Parce qu'il était déjà donné depuis 4 mois, le ballon d'or.
Très bon point.
C'est pas une raison.
Merci les Patreons.
Karim. Rosnob.